Rappelez-vous, la semaine dernière, dans le premier cours qu'on a fait sur le chapitre 46,
328,
page 328, en effet, on a expliqué la chose suivante, on a expliqué qu'il y a une façon, un derrière, une approche, qui permet à n'importe quelle personne, même une personne qui n'est pas forcément tzaddique, même une personne qui est un clochard, pour reprendre les termes de la semaine dernière, je suis un peu cru, de pouvoir ressentir l'amour de Dieu. Pourquoi ? On a utilisé une technique que donne le roi Salomon. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il nous apprend un principe très fort. Lorsque tu sens que quelqu'un éprouve sincèrement de l'amour pour toi, tu peux pas ne pas l'aimer. C'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas l'aimer, c'est pas possible, c'est obligé que tu vas l'aimer. Il avait donné l'exemple, le roi Salomon, il a dit de la même façon que lorsque tu es devant un cours d'eau et que tu fais un sourire, le cours d'eau te reflète,
te renvoie l'image.
De la même façon, quand tu fais un sourire à quelqu'un, et pas un sourire forcé, un vrai sourire, il peut pas ne pas te sourire. Vous savez, c'est comme quand on dispute avec quelqu'un, c'est comme le tango. Pour lancer le tango, il faut être combien ?
Deux.
Il faut être deux. Non, si toi tu veux disputer avec quelqu'un, mais lui il veut pas disputer avec toi. Il rigole sincèrement, il est pas malheureux, il veut pas disputer. Toi tu veux disputer, est-ce que tu peux disputer ? Impossible.
Non.
Va disputer avec un bébé, il fait des sourires. Va disputer avec quelqu'un, un adulte qui te fait des sourires. Impossible.
Il faut qu'il y ait un échange.
Dans une guerre, il faut qu'il y ait deux qui se battent. Alors, de la même façon, si c'est comme ça dans la guerre, à plus forte raison que c'est comme ça dans l'amour. À plus forte raison que c'est comme ça dans l'amour, que lorsque tu as deux personnes qui s'expriment mutuellement un amour, il n'y a pas besoin forcément que les deux s'expriment un amour. Il suffit d'un des deux qui exprime un sentiment d'amour envers l'autre et automatiquement l'autre va se mettre à l'aimer. Pourquoi je parle de tout ça ? En fait, ici, on va créer une relation d'amour entre Dieu et nous. Et on va t'expliquer qu'en fait, tu n'as même pas besoin de générer un sentiment d'amour envers Dieu. Il te suffit simplement de réaliser que Dieu t'aime. Et le simple fait que tu vas réaliser que Dieu t'aime...
Donc il faut lui rendre.
Automatiquement, c'est même pas qu'il faut lui rendre. Automatiquement, toi en retour, tu vas l'aimer. Sauf que c'est là toute la complexité. Comment je réalise que Dieu m'aime ? Il y a des gens qui se posent des questions. Ils disent, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? J'ai pas voulu le redonner la semaine dernière, mais... Il y a des gens qui ont des problèmes dans la vie. Qui se posent des questions, ils disent, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? C'est une bonne question. C'est une question qui est légitime. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, Baruch HaShem. Qui n'a pas de problème ? Bon, il y a des gens qui n'ont pas de vrais problèmes. Baruch HaShem, pour remercier HaShem tous les jours. Mais il y a des gens qui ont des vrais problèmes. Ces gens-là, ils se posent des questions. Ils disent, est-ce que Dieu m'aime ? C'est légitime de se poser une question comme ça. C'est comme un enfant, on peut se poser une question. Il voit que ses parents ont plusieurs enfants, et qu'il y a des enfants qui ont l'impression qu'ils sont plus choyés que d'autres. Et donc, il se pose la question, il dit, est-ce que mon père m'aime vraiment ? C'est les questions qu'on entend. Les jeunes, ils vous posent ces questions. Ils disent, je sais pas si mon père m'aime. Donc la même question, une personne pourrait se poser par rapport à Dieu. Pourrait se dire, est-ce que Dieu m'aime ? C'est une vraie question. Est-ce que Dieu m'aime vraiment ? J'ai pas envie de dire que Dieu me déteste. Il y a des gens qui vont dire, mon père me déteste. Bon, ça, tu les calmes. Ouais. Après, est-ce que mon père a craqué pour moi ? Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas. C'est une question qui se pose. C'est pour ça que l'Admor HaZaken, ici, dans ce chapitre 46, il veut nous donner des mots concrets pour réaliser qu'en vérité, bien sûr que Dieu nous aime, et il nous aime alors qu'il ne nous doit rien du tout. Et là, on change. C'est une bonne question. La question n'est pas. Je ne suis pas en train de justifier ce qui s'est passé.
Non,
je
n'ai pas dit ça.
Je suis simplement en train de dire que Dieu m'aime.
Comment on va leur dire
ça ? Ok. Ça ne change pas. C'est pas parce que je dis qu'il m'aime que je comprends tout ce qu'il fait. Mais je veux simplement comprendre que Dieu m'aime. Pour moi, le chapitre 46 est un chapitre très important dans le Tanya. Je vous ai raconté la semaine dernière comment je me rappelle encore quand on l'avait étudié à la Yeshiva à l'âge de 13 ans. Puisque je pense à un chapitre dans lequel l'Admor HaZaken inverse la donne. En général, les gens ont toujours l'habitude de parler à Dieu en disant « Moi, je t'ai fait ci, moi, je t'ai fait ci, et moi, je t'ai donné ça, du coup, tu me dois. Avec tout ce que je t'ai donné, tu me dois.
Ouais, »
Là, dans ce chapitre, l'Admor HaZaken te montre qu'en vérité, Dieu, il te doit rien. Il te doit rien. T'es un clochard, pour reprendre l'exemple qu'on va citer de seconde. Et avec tout ce que tu es, Dieu, il est venu te chercher. C'est là que l'Admor HaZaken a donné, de seconde, on y arrive. C'est là que l'Admor HaZaken a donné un exemple. Un exemple qu'on a commencé la semaine dernière et qu'on va continuer aujourd'hui, on va rentrer dans les détails. Un exemple pour nous montrer à quel point Dieu nous aime. Alors, on va pas parler tout de suite d'aujourd'hui, On va parler de 2018, de 1978. On va parler de la sortie d'Égypte, parce que c'est là que tout a démarré. Et après, progressivement, on développera comment on arrive jusqu'à notre époque. À quel moment le peuple juif démarre? Le peuple juif démarre à la sortie d'Égypte. Vous allez dire, non, mais c'est faux, il y a Abraham. Abraham, c'est pas le début du peuple juif. Abraham, c'est notre ancêtre, etc. Mais l'histoire du peuple juif, la naissance du peuple juif, démarre à la sortie d'Égypte. D'accord? D'ailleurs, Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera en Égypte, etc. Enfin, sera exilé dans un pays qui n'est pas le sien. Ils sortiront, et là, Dieu l'a annoncé à Moïse, vous sortirez, vous irez sur le mont Sinaï, et c'est là que vous allez réellement être entendu. Vous allez recevoir la Torah. Ok. On va se remettre maintenant quelques instants dans l'idée que Dieu nous fait sortir d'Égypte. Et là, on va donner l'exemple. Imaginez un roi qui a des ministres, un grand roi, le roi le plus grand que vous connaissez. Les Marocains, ils s'imaginent le roi du Maroc, les Tunisiens, le roi de Tunisie, chacun va s'imaginer le roi qu'il veut. Un vrai roi.
Et moi, celui du Danemark.
Exactement. D'accord? Donc vous allez vous imaginer un vrai roi. Imaginez-vous, c'est l'exemple qu'on a donné la semaine dernière, le roi qui sort de son palais. Tout le monde le suit. Où va le roi? Où va le roi? Le roi, il ne rentre pas chez lui à la maison. Il ne va pas chez un ministre. Il ne va pas dans son palais. Il ne va pas dans une résidence secondaire. Où il va? Il va dans la rue. Il va dans la zone des clochards, dans le 9-3.
Quoi?
9-3. J'ai rien contre le 9-3, mais.
Bien vu.
Il va.
Il y a le 9-4 aussi.
Il y a le 9-4 aussi.
Bon. À la rencontre du peuple.
Il va à la rencontre du peuple. Non, c'est pas stable le peuple. Il y a le peuple, les gens qui sont pauvres, mais qui s'habillent correctement, qui se respectent. Là, il va voir une personne. Il va dans la zone dans les endroits des gens qui ne se respectent même plus. C'est-à-dire qu'il n'a même plus l'image d'un homme. Un clochard. Il est dans la boue. Il est là. Il sent mauvais. Ça veut dire qu'il ne se respecte même pas. C'est pas qu'il n'est pas habillé classe. C'est pas qu'il n'a pas de quoi manger. Il ne se respecte même pas en tant qu'être humain. Il se laisse complètement aller. Le roi va le voir. Prends cette personne. Il l'amène dans son palais. À la stupéfaction de tous ses ministres. Ils ne comprennent pas. Maintenant, même le ministre, jusqu'où il rentre? Il rentre en général dans le bureau des ministres. Dans le bureau, dans le cabinet où tous les ministres se rassemblent. Mais personne ne rentre dans la chambre du roi. Personne ne rentre dans la chambre du roi. La chambre du roi, personne ne rentre là-bas. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce clochard qu'il a trouvé. Il fait rentrer. Il aurait pu demander à un ministre de s'occuper de ce clochard. Il dit, bon, occupe-toi de lui, habille-le, etc. Le roi, il suffit qu'il claque du doigt avec un regard, et il suffit qu'on s'occupe de lui, on le change, on lui donne une maison à celui-là. Mais c'est pas ce que le roi a fait. Le roi, il a pris le clochard, il l'a fait rentrer dans son palais. Il l'a fait rentrer dans sa chambre. Et dans sa chambre, il le prend et l'embrasse.
Il l'embrasse,
c'est vrai. Il lui montre qu'il aime. Alors, même si un clochard, par définition, avec le temps, il est aigri par la vie, et avec le temps, plus rien ne lui parle. Ça, tu peux pas le surprendre, il n'y a plus rien qui le surprend, il n'y a plus rien qui lui parle. Ça veut dire que même s'il voit un enfant passer en train de lui faire un sourire, ça ne lui parle pas. Ça ne lui dit plus rien. Il est aigri par la vie. Il broie du noir partout. Même une personne comme ça, lorsque le roi l'a pris et qu'il l'a amené chez lui à la maison, et qu'il a fait un tel kavod, et que surtout, ce n'est pas seulement un kavod, il lui a exprimé un tel amour, il ne peut pas ne pas ressentir de son côté aussi un sentiment d'amour envers le roi. Non. Seulement, des fois, ça prend du temps. Parce qu'en fait, le clochard reste dans son monde de clochard. Et même quand on le fera au monde du roi, il se pose des questions. Mais pourquoi il m'a fait rentrer? Qu'est-ce qu'il me veut, etc. Donc il cherche l'intérêt ici. Et au bout d'un moment, il y a un déclic. Alors, le déclic, il peut venir au bout de 5 minutes, de 10 minutes, d'une heure, de 2 heures, d'un jour, de 2 jours. C'est pas un problème, ça prend le temps que ça prend. Mais au bout d'un moment, il a un déclic. Il dit, le roi ne m'a pas amené dans son palais parce qu'il a besoin de moi. Le roi m'a amené dans son palais parce qu'il m'aime. Sans raison. Il a rien à tirer de moi. Je lui sers à rien. Il m'aime, et c'est pour ça qu'il m'a pris. Si vous voulez, dit l'Admorazaken, c'est exactement la même chose. Donc, enfin, pour terminer l'exemple, l'Admorazaken a employé un terme très fort. Il a dit que même si ce clochard avait un cœur de pierre, son cœur fondrait. C'est sûr, papa n'est pas fondré. Ok. Alors, imaginez que Dieu a fait, deux secondes, on termine l'exemple, Dieu a fait exactement la même chose avec nous.
Ensuite, un exemple, ce que je vais te dire.
Oui.
Pour compléter l'exemple.
Mais je termine l'image. Après, avec plaisir. Je
te donne une autre image.
Ah ben je
l'avais déjà étudié déjà.
Ah mais je, deux secondes.
Très important.
Certainement, mais je vais juste terminer.
On ne pense pas tous, mais...
J'arrive, on y arrive. Je vais juste terminer l'exemple. Alors, dit l'Admor HaZaken, de la même façon, imaginez, c'est exactement la même chose qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Dieu est grand. Dieu est tellement grand qu'on ne peut même pas sonder sa grandeur. Ça veut dire que je peux le mesurer, que moi je suis petit et lui il est grand. tu te compares déjà à lui. Je vous donne un exemple. Si je compare par exemple 1 à 1 milliard, c'est vrai qu'un milliard c'est beaucoup plus que 1, mais 1 milliard c'est 1 milliard de fois 1. Et 1 milliard moins 1, c'est plus 1 milliard. Donc on peut quantifier. Je peux créer une relation entre le 1 et le 1 milliard. C'est vrai que le 1 milliard il est beaucoup plus grand, mais il y a une relation.
C'est une échelle. C'est que entre lui et nous, nous, lui avec nous ou lui sans nous, il reste lui.
Exactement. C'est plus que ça. C'est qu'on peut, je peux même pas dire que je suis petit devant lui qui est grand. Parce que si tu dis que tu es petit devant quelqu'un qui est grand, ça veut dire déjà tu te relativises par rapport à lui.
Tu limites.
Ce que tu peux pas faire. Comme on en a parlé Shabbat aussi, en cours Shabbat après-midi. On peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, tu peux pas quantifier sa grandeur. En d'autres termes, Dieu est grand, plus grand que tout ce que tu peux t'imaginer. Et Dieu, il a des myriades d'anges. Dans chaque régiment, il y a, on avait donné un compte la semaine dernière, on avait parlé un compte, je crois, de 10 000, comment on avait dit, 1 000 milliers le servent et 10 000 myriades se tiennent devant lui. Mm-hmm. Et on avait expliqué, la Gemara avait dit que, donc 1 000 milliers, 1 000 fois 1 000, et on avait expliqué que des nombres de groupes comme ça, il y en a à l'infini. En d'autres termes, il a un nombre infini d'anges qui sont des robots, qui peuvent lui faire sa volonté parfaitement, sans aucun raté, sans aucun problème. Il suffit que Dieu il envoie un regard dans un endroit, et tout est fait de la façon la plus parfaite possible. Les anges se battent pour accomplir sa volonté. Attendez, justement. Et pourtant, tous ces anges, ils demandent, ils disent, mais comment on peut capter l'attention de Dieu? Tout le monde veut lui faire plaisir. Et Dieu, il sort de son palais. Où il sort de son palais, enfin, c'est une image. Où il va?
Clochard.
Il va chez les clochards. Maintenant, pourquoi je nous appelle les clochards? Parce que nous, avec la vérote qu'on a fait, de façon générale, on est dans la matérialité. Donc on n'a rien à apporter à Dieu. On n'a rien à lui apporter. Ça veut dire que les anges, ils pouvaient lui faire tout ce qu'on lui fait. Les anges pourraient le faire 1 000 fois mieux, 1 milliard de fois mieux. On ne peut même pas quantifier.
À la limite, il n'a même pas besoin des anges.
Exactement. Il a besoin de personne. Seulement, les anges, c'est un détail important. Les anges, c'est l'équivalent des ministres, dans l'exemple. C'est les ministres qui disent alors où va le roi?
Exactement.
Où va le roi? Et ils suivent. Et tout le monde dit alors où il va? Et ils voient, il arrive chez les clochards. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce qu'il fait là? Akadosh Baruch Hu a mis de côté tout le monde. Il a mis de côté les anges. Il a mis de côté toutes les créatures célestes, terrestres, tout. Il a dit, j'ai choisi une chose. Israël, mon peuple. Maintenant, où était ce peuple juif? Le peuple juif était dans Mitzrayim. Mitzrayim, c'était la poubelle de la terre. La Torah l'appelle la nudité, l'infamie de la terre. C'est un endroit dans lequel il y avait la débauche. Alors c'est vrai que... C'est vrai qu'effectivement, on a essayé de garder un certain standing en Égypte. Mais concrètement, le peuple juif était dans la débauche. Ça veut dire, en tout cas, on avait des problèmes, on n'était pas comme il faut. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu envoyer un ange pour aller nous chercher là-bas. Il n'aurait pas envoyé un ange pour aller nous chercher. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit non. Le roi lui-même, rappelez-vous dans l'exemple. Le roi n'envoie pas un ministre. Il ne dit pas au ministère de la santé. Il ne dit pas au ministre de la santé, va t'occuper de ce clochard. Lui-même. Il dit, c'est moi qui va le chercher. C'est moi qui m'occupe de lui. J'ai dit, mais quel rapport? Pourquoi il fait ça? À Kadosh Baruch Hu, lui-même, il n'envoie pas un malach. Il vient lui-même pour nous chercher en Égypte. Pour nous chercher. Et pas c'est à nous chercher. Pour nous embrasser. Comment il nous embrasse, Hachem? Hachem, il nous embrasse par l'étude de la Torah. Parce que chaque fois que j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est en train d'étudier la Torah. Un texte de Torah, qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau est en train d'entourer une idée. Il y a une idée ici, une idée de Torah. Mon cerveau est en train d'envelopper cette idée. Et cette idée est en train de me prendre. Donc, en d'autres termes, je suis en train d'avoir une relation avec Dieu. Une relation qui est encore plus profonde qu'une relation charnelle. C'est une relation spirituelle, une relation des esprits. C'est deux esprits qui se rejoignent. C'est l'esprit divin qui rejoint mon esprit. C'est-à-dire que mon esprit entoure l'esprit divin et l'esprit divin m'entoure. C'est ça quand j'étudie quelque chose, quand j'étudie un concept. Le concept m'enveloppe et j'enveloppe le concept. Ça va dans les deux sens. Ça, c'est le baiser. Dieu, il te prend, il t'amène dans son palais. C'est quoi son palais? Justement, c'est quand tu nous as donné pour nous donner la Torah. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité d'étudier la Torah. Et pas seulement ça, il nous embrasse, c'est par l'étude de la Torah. Et ça, on l'a pas dit la semaine dernière. Et il nous enlace. Il y a embrassé. Ça, c'est l'étude de la Torah. Et il y a enlacé. Comment il nous enlace? Vous savez comment Dieu nous enlace? Par l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi? Chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme si que je suis en train d'enlacer à Kadosh Baruch Hu. Je l'enlace. Maintenant, on avait donné cet exemple dans chapitre 7, ça fait longtemps, ça fait quelques années. On avait expliqué que quand tu enlaces quelqu'un, il n'y a pas de différence si la personne que tu enlaces porte 10 vêtements, 5 vêtements, 0 vêtements, 1000 vêtements, tu enlaces toujours la personne. Bah, vous suivez? Ça veut dire que, après, peut-être tu le sens plus, tu le sens moins. Mais quand tu enlaces une personne, même s'il a 1000 vêtements, c'est toujours la personne que tu enlaces. Donc dites-vous que chaque fois que vous faites une mitzvah, vous êtes en train d'enlacer Dieu. Dieu t'a fait rentrer dans sa chambre, il t'a embrassé avec l'étude de la halakha, il t'embrasse constamment et il te donne la possibilité de l'enlacer avec les mitzvot. Alors toi, tu crois que tu lui rends service. Mais Dieu, il n'a pas besoin de tes mitzvot. C'est un peu rude ce que je dis, mais Dieu n'a pas besoin de tes mitzvot. Il n'a pas besoin. Et si vraiment il avait quelque chose à obtenir, il avait des anges qui l'auraient fait 1000 fois mieux que toi. Et pourtant, pour une raison qu'on ignore, c'est une envie de Dieu. Il a décidé, tout le monde prend, c'est votre question. Pour une raison qu'on ignore, chapitre 36 qu'on a expliqué, Dieu, il nous a choisis à nous, il a dit c'est vous que je veux. Je veux que vous faites des efforts pour faire des mitzvot. Bah, donc, et moi je vous amène dans mon bureau, je vous amène dans ma chambre, je vais vous embrasser par la halakha, et je vais vous enlacer par mes mitzvot. Chaque fois que vous faites une mitzvah, chaque fois que vous étudiez la halakha, je vous embrasse, je vous enlace. C'est énorme, c'est extraordinaire.
Attends.
Bien sûr, mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est que nous, quand on dit qu'il nous demande de les faire, c'est pour ça que je dis que l'approche change. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on pensait? Je suis en train de rendre service à Dieu. Il m'a demandé un service, moi, Mendy Assouline, est-ce que tu veux bien mettre les tefilines demain matin? Et moi, dans mon extrême bonté et gentillesse, je me suis levé le matin, et je suis parti à la synagogue pour lui, d'accord? Et j'ai mis les tefilines, et j'ai pris une heure pour le mettre. Et donc, je sors avec un regard hautain de la synagogue, enfin, c'est une image évidemment, et je dis à Dieu, voilà Dieu, tu me l'as demandé, allez, je t'ai mis les tefilines.
Là,
mais ouais, bah, ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Alors là, je fais un peu la caricature, mais c'est ça. C'est-à-dire, tu m'as demandé, j'ai fait. Donc maintenant, tu fais ce que je te demande. Donnant.
Mais il n'y a pas d'amour.
Tu dis ici, le Morazaké, tu dis, ça marche pas comme ça. Tu dis, t'as un clochard. Dieu n'a pas besoin de toi.
Il n'y a pas d'amour.
Mais Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu, il t'aime.
Naturellement.
Oui, Dieu, il t'aime.
Alors justement.
Et comme il t'aime, il te donne tout. Il ne pose pas de questions. Et ça, juste tu réfléchis à ça. Il faut qu'on développe encore. On décortique. Juste tu réfléchis à ça, tu comprends qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Il nous aime. Maintenant, tu as posé une bonne question. Dire si, même, pourquoi il nous a fait tellement de malheur?
Non,
il nous a fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire?
Il a permis.
Surtout ceux qui viennent du monde Ashkenaz, qui sont passés, qu'il n'y a pas une famille dans laquelle
ils voilà. Avec la.
Alors, comment tu fais? Comment tu réponds? Mais je réponds à cette question.
L'inquisition.
Exactement. Bon, c'est plus loin pour nous.
Voilà.
Je réponds à cette question. D'abord, l'Égypte, c'était pas encore plus grave que ça, mais c'est loin. Je réponds à cette question. Ce n'est pas parce que je réalise que quelqu'un m'aime que je comprends tout ce qu'il me fait.
Et dans notre langage à nous, aimer, c'est le contraire du mal.
C'est faux?
Je
donne un exemple. Par exemple, un enfant peut être persuadé et ressentir l'amour que ses parents ont pour lui, même s'il y a des choses que ses parents font qu'il ne comprend pas et qu'il pense que c'est pour son mal. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses que ses parents font, lui il pense que c'est pour son mal.
Oui, parce qu'il a des fois il le dit, des fois il le dit pas.
Il n'a pas encore la maturité. Mais ça n'empêche pas que si tu veux lui poser la question, est-ce que tes parents t'aiment? Alors il y en a qui vont dire non, mes parents m'aiment pas parce que les parents lui ont pas montré d'amour ou qu'il n'a pas encore réalisé qu'il les aimait.
Enfin, il faut mesurer le mal là-dedans. Il y a mal et mal.
Quand on
va massacrer tout un peuple.
Monsieur Benita, imaginez un bébé qui s'est sali avec de l'encre, une tache d'encre. D'accord? Grosse tache d'encre. Sa mère, elle va l'amener sous la douche. Elle va essayer de le frotter, ça part pas. Elle va essayer de le frotter avec l'éponge classique, là, avec le truc, là. Ça passe pas. Bon. Alors, on prend une éponge un peu plus rêche, on n'a pas le choix. Et le gosse, il hurle. Parce qu'il n'a pas l'habitude, Moltonnel, tout doux. Et là, tu envoies, le gosse, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'il a mal. Il comprend pas pourquoi on lui fait ça. Il n'est pas en état de comprendre que, il n'est pas en état de comprendre que j'ai une tâche et ma mère. Mais est-ce que ça veut dire que le gosse, à ce moment-là, il pense que sa mère le déteste? Non, je ne pense pas.
Non.
Il sait que sa mère, elle l'aime, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Donc ça lui casse les pieds, ça l'énerve. Il dit, bon, je sais que tu m'aimes, c'est bon, mais ne me frotte pas. C'est la même façon. À Kadosh Baruch Hu, on ne comprend pas tout ce qu'il fait. Ça nous dépasse. Mais ça n'empêche pas que le simple fait de...
relativiser comme ça. C'est sûrement raison, mais c'est difficile de relativiser. Les gens qui ont pris les coups... c'est très difficile.
Mais je ne peux pas expliquer ce que je suis en train de dire. Personne ne peut expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est inexplicable que ça veut dire que Dieu ne m'aime pas.
D'accord.
Okay. La grande question que tout le monde pose, c'est où était Dieu pendant la Shoah, etc. Bon, c'est une question. Mais ah, y a pas de réponse, ça veut dire, c'est pas parce que je comprends pas ce que Dieu fait que je dis qu'il ne m'aime pas.
Oui, c'est vrai, mais enfin, d'un autre côté, il nous a choisis et il nous punit depuis Babylone avec la destruction du premier temple.
Un cadeau
empoisonné.
Voilà.
Ils ont choisi.
Lundi, dans un couple, pour moins ça, on divorce, on quitte la personne.
Oui.
Donc déjà, on ne veut plus la voir. En règle générale.
Oui, parce
qu'il y en a qui ont
la question. Monsieur Acosta,
avec tout ce que Dieu a fait,
exactement.
Ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là. Et pourtant, on est tout le temps là, avec lui.
Mais on ne lui doit rien.
Non, mais...
il ne nous doit rien.
On s'accroche toujours à Dieu.
Monsieur Akos, en général, quand deux personnes divorcent, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Parce que quand il y a un amour, en général, l'amour réussit à reprendre le dessus. Bien sûr. Le problème, c'est qu'on sent qu'il n'y a plus d'amour.
Oui, mais pour qui est l'amour?
Parce que l'amour couvre les défauts.
On soit à deux.
Comment ils disent les autres? Ils disent le mariage rend aveugle. Non, l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Non, mais sérieusement. Lorsqu'il y a l'amour, ça couvre tout le problème. C'est-à-dire, on arrive à aller au-dessus. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Mais si tu réalises que la personne t'aime et qu'il continue à t'aimer, tu ne peux pas ne pas l'aimer de retour.
Alors, justement, quand tu as dit tout à l'heure que Hacham, il n'a pas besoin de nous. Mais après, tu nous as dit que la manière dont il va manifester le fait qu'il nous aime et qu'il nous embrasse et qu'il nous enlace, c'est à travers les mitzvot.
Oui.
Alors maintenant, on sait que Hacham est Chesed. Il nous a donné la Torah pour qu'on puisse accomplir sa volonté. Donc, quelque part, comme la faute des Meraglim, c'était de dire que quoi? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas voulu accepter le fait qu'il fallait aller travailler, aller faire les mitzvot pour recevoir ce chesed. D'accord. Donc, si on veut recevoir ce chesed, et Hachem, il est prêt à ouvrir les vannes à l'infini, donner tout ce qu'il veut, mais à une condition, qu'on fasse Torah mitzvot. Si on ne le fait pas, donc il a besoin de nous, tout comme nous, on a besoin de lui.
Non, il n'a pas besoin de nous.
Ben si, sinon il ne peut pas nous donner. Voilà. Il ne va pas nous donner pour nous donner.
Il y a un texte, dans les prophètes.
Non, alors je comprends. Pourquoi il a créé l'homme à ce moment-là?
Il y a un texte dans les prophètes qui dit comme ça. Il dit « Im tzadakta matitenlo ». Si tu as fait un bon acte, qu'est-ce que tu as donné à Dieu déjà? « Verabu pesha'echa ». Et si tu as fait beaucoup de fautes, « Matatelo », qu'est-ce que tu as fait à Dieu? C'est-à-dire en d'autres termes,
tu l'as
ne crois pas que tu as enlevé quelque chose à Dieu lorsque tu as fait une mitzvah ou que tu as fait une avéra.
Non,
Dieu n'a pas besoin de toi.
C'est pas en sens enlever ou pas enlever.
Non,
c'est l'autre jour vous avez.
Dieu n'a pas. Mais.
Il nous a donné un cahier des charges.
Même si Dieu n'a pas besoin de toi, c'est sa volonté. C'est une volonté. C'est un désir qui est inexplicable. Il a dit, c'est comme l'exemple du roi avec le clochard. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi le roi est parti chercher un clochard? Alors il y en a qui vont dire, il y a les mauvaises langues qui vont dire, oui, c'est une volonté politique de se donner. Un look social, mais il y a des limites.
Non, c'est même pas ça.
Il y a des limites.
Non,
hein.
Lui, il devait rendre compte.
Exactement. Ça veut dire que ça, tu le fais quand t'as envie d'impressionner quelqu'un.
Quand on.
Mais là, il va impressionner qui? Il y a personne à impressionner.
Mais dit quand on va chercher un clochard, quand le roi va chercher le clochard, quand il va chercher, ce qu'il lui dit. Clochard, on peut l'enlacer et lui dire je t'aime et tout, mais il lui intime l'ordre de fais-toi m'aimer. Ça veut dire quand tu intimes l'ordre à quelqu'un de se faire aimer, il va aimer et en même temps
il va
aimer.
J'entends ce que vous dites, mais c'est pas ce qui s'est passé. Dans l'exemple, c'est pas ce qui s'est passé. Dans l'exemple, le roi n'a jamais dit au clochard aime-moi.
Non, c'est pas ce que je viens de dire.
Le clochard se rend compte qu'il est aimé et il peut pas ne pas aimer en retour.
Si tu veux être aimé, il faut savoir se faire aimer. Ça veut dire, insidieusement, Dieu, quand il sort les Juifs d'Égypte, il les met en situation de, voilà, ce que j'ai fait pour vous, maintenant, insidieusement, c'est peut-être pas écrit, mais...
Indirectement,
aimez-moi, j'ai fait ça. Moi, je vous ai prouvé, je vous aimais, maintenant, à vous maintenant... Donc c'est inversement proportionnel à la puissance, t'es d'accord? Ouais. C'est comme quand tu regardes le ciel, tu vois autant d'étoiles, et pourtant tout ce qui est noir, il y a beaucoup plus de noir qu'il y a des étoiles.
Bien sûr.
Ah, c'est beau.
D'accord.
Ah, je retiens, je vais noter. Ah.
Oui, alors.
Non, mais il y a beaucoup plus de noir dans le ciel qu'il y a des étoiles. En réalité, tu vois. Donc, ce volume d'amour.
Il inspirait.
Recherché par. Non, mais c'est parce que ça me renvoie à un truc d'amant, là. C'est ancien, quoi. Mais. C'est des gens qui sont en maladie, qui sont malades.
J'ai bien entendu,
et qui,
là.
Et qui en parlent, et qui parlent de ça.
C'est
comment ça se fait de ne pas aimer? Pourquoi il y a un problème à ne pas aimer et je ne sais pas aimer? On ne s'est pas aimé, si on divorce, c'est qu'on n'a pas su aimer, forcément.
Non.
Oui, alors, oui, on est en problématique.
Joseph, là, la nouveauté de l'amour azaken, c'est qu'il te dit, les gens, ils parlent de la notion de apprendre à aimer. Attendez, apprendre à aimer. Là, l'amour azaken, il te dit, avant d'apprendre à aimer, par rapport à Dieu, il faut apprendre à être aimé.
Eh ben, c'est exactement ça.
Et quand tu apprends à être aimé par Dieu,
voilà,
tu peux pas ne pas l'aimer en retour.
Oui, mais le roi, donc, il descend pour lui montrer le chemin à suivre, pour lui apprendre, lui,
seulement
que dans sa misère, eh ben, maintenant, ta misère, tu vas apprendre.
Seulement, pourquoi on n'a pas ça forcément tout de suite dans une relation entre des parents et des enfants, entre un mari et une femme? Pourquoi on ne sent pas forcément qu'on est aimé? Parce que, on a l'impression qu'il y a un intérêt. Je dis, mon père, il attend de moi un certain intérêt.
Naturellement.
Il attend que je lui donne quelque chose. Oui. Donc, il y a un intérêt.
Exactement.
Donc, c'est pas de l'amour. Ou bien, ma femme, elle attend que je lui donne quelque chose. Donc, c'est pas de l'amour.
Pas de l'amour.
C'est un intérêt.
Ouais.
Bien qu'il y ait de l'amour, mais je le ressens plus difficilement. Mais dans le cas du clochard, à aucun moment, peut-être qu'il va le penser au début, mais le clochard, il est obligé d'arriver à la conclusion que le roi n'a aucun intérêt de moi. Il me doit rien du tout. Je lui rajoute rien du tout. J'ai rien, ça veut dire que si on devrait réfléchir en termes commerciaux, c'est-à-dire qu'est-ce que je lui ai apporté en termes de entrée-sortie, je l'apporte rien du tout. C'est une perte. C'est une pure perte. Mais quand on est dans l'amour, il n'y a pas de perte et de pure perte. Ça n'existe pas. Je l'aime.
Oui.
Alors, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il fait exactement la même chose avec l'Assemblée d'Israël. Alors, on va avancer un peu dans les mots. On est à la page 328. Vezé chez Omrim. Et c'est pour ça qu'on dit, Asher ki deshanu be mitzvotav. Si vous voulez, là, on va rentrer dans la profondeur, en haut de la page 328. Non, mais on fera une autre pause après. On va rentrer dans la profondeur pour expliquer que c'est pas seulement de la vieille histoire. Le concept que je viens de vous expliquer, que Dieu nous montre qu'il nous aime. Et Dieu nous montre que même s'il ne nous doit rien du tout, il nous aime, et parmi tous les anges, il nous a choisis à nous. C'est pas une vieille histoire qui s'est passée, ça fait 3300 ans en Égypte, et que depuis, c'est la vieille histoire. Ça se passe aujourd'hui. Pourquoi? Chaque fois, avant de faire une mitzvah, qu'est-ce que vous faites? Asher, demain, par exemple, demain matin, vous allez mettre les téfilines, et vous allez dire, Asher, ki deshanu be mitzvotav. On va dire que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire, ki deshanu, sanctifiés? D'où vient ce mot sanctifiés? Alors, on a traduit ça en français par sanctifiés, mais en vérité, sanctifiés, c'est pas forcément la bonne traduction. Pourquoi? Quelle est l'origine du mot kadesh?
Kodesh, saint,
c'est pareil.
Oui, mais ça veut dire quoi, saint? Alors regardez.
C'est pareil.
Sacré.
Qui Adam a Mekadesh Isha. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme va épouser une femme? On dit que l'homme a fait les Kiddushin. Pourquoi? Kiddushin.
Oui.
Pourquoi? Liyot meyuchedet imo liyichud gamur. De sorte que sa femme soit unie avec lui d'une parfaite unité. Et en fait, il ne faut pas chercher très loin. Il suffit de voir la paracha Bereshit. Lorsque Dieu a créé la première femme, donc le premier homme, et la première femme qui est issue de l'homme, ouais. Comme il est écrit, Dieu a annoncé comment allait se passer le système humain. Un homme aura des enfants. Il y aura un papa, une maman, qui vont donner naissance à un enfant. Cet enfant, il va grandir, et il va se marier. Ah bah, oh, bah. Il va se marier, on va chez le rabbi. Cet enfant va se marier. Et quand il va se marier, qu'est-ce qui va se passer? Regardez le texte. Vedavag beishto, il s'attachera à sa femme, veayu levasar echad, et ils seront une seule chair. D'ailleurs, le texte dit là-bas qu'il abandonnera son père et sa mère. D'accord? L'homme abandonnera son père et sa mère, il se collera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une seule chair? Comment on peut comprendre ça, devenir une seule chair? Devenir une seule chair, ça veut dire que lorsqu'on se marie, c'est pas qu'il y a monsieur un tel et madame un tel.
C'est pour ça qu'on dit ma moitié.
Hein, exactement. Ouais. Et c'est pas juste les beaux poèmes d'amour. C'est sérieux. Lorsqu'on dit que deux personnes se marient, ça veut dire qu'on fait, c'est pas qu'il y a monsieur un tel et madame un tel et qu'on a 1 plus 1 est égal à 2. Non. C'est 1 plus 1 est égal à 1. C'est ça qui est chez nous. Les kiddushim, c'est quoi? C'est lorsqu'on a une union qui devient presque une fusion. Il y a union et fusion, c'est pas la même chose. Vous voyez, si par exemple je prends ici du prigat, d'accord, du jus là, et je le mets dans le verre. Je peux dire qu'il y a une union entre le verre et le jus. Mais c'est pas une fusion. Il y a le jus, il y a le verre, et ça reste deux éléments différents. Mais si je prends par exemple un verre dans lequel il y avait de l'eau, Et dans ce verre dans lequel il y a de l'eau, je prends du prigate et je le mets à l'intérieur. Et le prigate se mélange avec l'eau. Là, c'est pas une union. C'est une fusion. Parce que ils sont inséparables après. L'eau qu'il y avait ici et le jus qu'il y a ici, ils sont inséparables. Ils sont devenus une seule chose, une seule entité. C'est ça quand on dit, quand on parle d'un mariage. Quand on parle de Kiddushim, c'est que l'homme et la femme deviennent une seule entité. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Par rapport à Dieu. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, rappelez-vous mitzvah, quand on fait une mitzvah, c'est comme si on est en train d'enlacer Dieu. Et alors? Lorsque je fais une mitzvah, avant de faire la mitzvah, je fais une beracha. Et qu'est-ce que je dis dans cette beracha? Asher kideshanu bemitzvotav. Que Dieu nous a sanctifiés, nous a unis, donc il a fusionné avec nous, bemitzvotav au travers des mitzvot. Vous voyez comment ça change tout? La mitzvah n'est plus une galère. C'est pas du style, bon, je vais mettre les tefillin, il m'a demandé, allez, en plus il m'a mis une bracha avec, je fais la bracha avec. Non. Pourquoi les chachamim ont instauré la bracha? C'est les chachamim qui ont instauré la bracha. Qu'on a étudié au cours de Gemara dimanche matin. Parce que les chachamim veulent te montrer, il faut que tu réalises ce qui est en train de se passer ici. Dieu n'a pas besoin de toi. Il te doit rien. Il ne doit rien du tout à Kadosh Baruch Hu. Dieu est en train de te rendre un service. Il te donne la possibilité de t'unir, d'accord? De t'unir avec lui. À Kadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de t'attacher à lui. Et ça, il n'y a pas de prix à ça. C'est exactement comme un homme qui va s'unir avec une femme. Kacha mamash. Ainsi. Exactement comme ça. Je suis au troisième paragraphe. Veyeter alken le enketz. Et infiniment plus encore que ce que c'est l'union entre l'homme et une femme. Ouichud nefesh elokit aoseke bator o mitzvot. Ve nefesh echionet elbushen anal beren se baruchou. Imaginez que chaque fois que vous étudiez la Torah, comme maintenant, chaque fois que vous faites une mitzvah, comme étudier la Torah, qui est aussi une mitzvah, ou comme être tefillin, ou comme tout le monde que vous pouvez faire, ou comme aimer son prochain comme soi-même, etc. Et bien à ce moment-là, votre âme fusionne avec Dieu. Chaque mitzvah que vous faites. Ça veut dire que si vous voulez, le roi il va faire rentrer dans sa chambre. Maintenant il faut passer à l'acte. Comment on passe à l'acte avec le roi? Comment on va l'embrasser? Comment on va l'enlacer? Quand tu fais la mitzvah. Chaque fois que je fais une mitzvah, chaque fois que j'étudie la Torah, j'embrasse le roi. Chaque fois que je fais une mitzvah, j'enlace le roi, je fusionne avec le roi. Vous savez, quand on enlace. À un moment, c'est pas qu'il y a une personne avec une autre personne. Quand on l'enlace, ça devient une seule entité. Une seule entité de deux êtres enlacés. Ça devient une seule entité. Bah, dites-vous que c'est exactement de la même façon qu'on faisait avec Kadosh Baruch Hu. Il y a un Ayom Yom qui illustre ça. Très joli Ayom Yom, qui illustre ça avec une belle image. Bonsoir. Il dit, imaginez, dans une même pièce, deux hommes. D'accord? Un homme, qui est extrêmement attiré par la science. Un scientifique. Personne qui est un grand esprit. Quelqu'un qui est intéressé que par la science. Et que ça n'intéresse pas de savoir qui a gagné la semaine dernière ou qui a perdu. Il s'en fiche, des bêtises là. D'accord? Et d'un autre côté, dans la même pièce, tu mets un chmar qui est intéressé, qui a tapé sur le ballon, qui a gagné, qui a perdu. C'est une bêtise. D'accord? Ou même pire. Maintenant, tu mets les deux dans la même pièce. D'accord? J'ai rien contre les amateurs de foot, mais. Bon, imaginons plus, d'accord? Tu mets une personne qui est extrêmement intelligente, pas seulement intelligente, il y a des gens intelligents, mais qui ne sont pas versés dans la science. Imagine une personne versée dans la science, et que la science qui l'intéresse, que la science, la recherche intellectuelle. Et tu mets dans la même table une personne qui est Irma. Est-ce qu'ils peuvent discuter entre ces gens-là? Impossible, ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont pas le même monde. Hein, il va parler de bouffe, l'autre il va parler de Torah. Hein, il va parler de.
Oui, tu tentes.
Hein?
Tu tentes.
Oui, mais ils n'ont pas le même sens d'intérêt. Ils n'ont pas le même sens d'intérêt, ils parlent pas la même chose.
Un demi pour cent,
ça vous arrive pas des fois, vous êtes assis avec quelqu'un. Bon, tu dis bonjour, au revoir, quelle heure il est, etc. Tu sens que t'as rien à dire.
Ah, tu tentes.
T'as rien à dire, le gars il te parle de trucs, t'as rien à dire. T'as rien à dire.
On peut s'intéresser l'un à l'autre. Moi, je m'intéresse à sa spécialité.
Oui, mais ça veut dire.
Et lui, il s'intéresse à moi.
Mais ça veut dire.
Il y en a qui vous parlent de.
Attendez, j'ai pas fini. Ça veut dire que ce qui me fait vibrer n'est pas ce qui fait vibrer. Mais, écoutez bien où je veux en arriver. Ce qui explique le rabbi dans l'Yom-Yom. Il dit, la personne, le deuxième individu, le simplet, il a une admiration profonde et un respect pour le grand savant. Il a une admiration profonde. Il essaye d'attirer son attention et de se rendre utile pour cette personne, mais il peut pas. Parce que ils sont pas du tout dans la même longueur d'onde. Ils sont pas connectés de la même façon. Ok. Maintenant, imaginez. Donc du coup, ça peut durer comme ça des mois et des années. T'as deux personnes dans la même pièce, mais ils peuvent pas communiquer. Alors, il y a un qui respecte grave l'autre. C'est pas que celui qui est intelligent, il dédaigne l'autre. C'est pas qu'il dédaigne. C'est que j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire. T'es pas dans mon monde. T'es pas dans mon monde, tu vis pas ce que je vis. Imaginez maintenant que ce grand savant, il a envie de monter dans la bibliothèque et qu'il y a un livre qui se trouve dans la 10e étagère en haut. Et que lui, bon, c'est pas un sportif, il est pas en train de faire du sport, donc il a peur de monter en haut à la 10e étagère, il a besoin du livre. Et il va demander,
simplet,
il va dire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, chercher le livre en haut.
Il va être fier, le simplet.
Exactement. Non seulement qu'il va le faire.
Il peut le faire, il sera.
Mais il va être fier de ça. Il va dire,
il a prêté attention à moi.
Enfin, je sers à quelque chose.
Voilà, exactement.
Enfin, j'ai capté son attention. Enfin, je vaux quelque chose. Je vaux pas rien du tout.
J'existe.
Et donc, il est évident que ce simplet, il demandera pas à être payé pour ça. Et pas seulement ça, il ira en courant pour le faire. Et il dira la prochaine fois que vous avez besoin, n'hésitez demandez pas à me réveiller à 4h du matin pour le faire.
Vous demandez à moi, pas à un autre.
Et à moi.
À moi, pas
à moi. À moi, c'est un honneur pour moi de vous le faire. C'est un honneur pour moi de vous servir. Et c'est vraiment un honneur.
C'est vrai.
Parce qu'ils se sentent valorisés.
Ouais.
Dites-vous, dit le rabbi dans la même homme, c'est exactement la même chose avec le Kadosh Baruch Hu. Exactement la même chose. Kadosh Baruch Hu, il est tellement grand. Nous, on est tellement petits. Et même grand et petit, on peut pas dire. Que même capter son attention, on essaye de capter l'attention d'Hachem. Qu'est-ce qu'il te dit, Hachem? Hachem, il te dit, mais pourquoi tu cherches à capter mon attention? Moi, je te donne la possibilité. Je te dis, fais les mitzvot. Quand tu racontes ton charabia, ton baratin, tu peux parler de ce que tu veux, mais tu communiques pas avec moi. Moi, je te donne une possibilité. Je lui monte sur l'échelle. Voilà, l'échelle, je te l'ai donnée. C'est quoi l'échelle? Fais la Torah, fais les mitzvot. Quand tu fais la Torah, quand on fait les mitzvot, à mes yeux, tu es valorisé. À mes yeux, tu vaux quelque chose, tu sers à quelque chose. Ça veut dire que, alors, dit là-bas le rabbi, il dit, le simple fait de savoir que je suis valorisé devant Dieu, ça me rend joyeux de faire la mitzvah, et je n'attends même pas de salaire pour ça. Rappelez-vous l'exemple. J'attends pas de salaire. Je suis content que j'ai été valorisé. Quand je réfléchis à ce qu'on a dit, que je suis un clochard, et qu'avec tout ça, Dieu vient me chercher, et qu'il me dit, j'ai besoin de toi, pour faire la mitzvah, j'ai quoi? Il a besoin de moi. Lui, il a besoin de moi. Je rentre pas dans la question, est-ce qu'il a réellement besoin de moi? Est-ce qu'il aurait pu le faire? Le simple fait que j'entends une phrase comme ça, j'ai besoin, Dieu il dit j'ai besoin de toi, fais quelque chose, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Waouh, je peux me rendre utile pour Dieu, mais juste pour ça tu vas le faire en courant. Tu poses pas la question, combien il me paye, est-ce qu'il peut m'augmenter, est-ce qu'il c'est autre chose.
Il veut le 13e mois.
Ah ben oui, il veut le 13e mois, il veut le
14e
maintenant, d'accord.
Il y a 14 ans.
Ah oui, bien sûr, ça arrive. Alors,
la Vénus de Macron. Je pense pas qu'ils nous ont donné un 14e, un 15e. Hein.
D'accord.
11 mois.
Ce qu'il dit là de Mourazaken, il dit c'est pour ça que chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Asher ki deshanu be mitzvotav. Dieu nous a sanctifiés avec ses mitzvot, il nous a unis. Il fusionne avec nous au travers de ses mitzvot, comme un homme fusionnerait avec une femme, d'accord? Mais quand ça marche. Et là, dites-vous que c'est la même chose avec le cas de Jean. Avec ça, on va comprendre beaucoup de choses. Ça va expliquer beaucoup de choses. Mais la reine, c'est pour cela, hein. Je suis deux paragraphes avant la fin de la page, mais la reine, c'est pour cela, hein. Imshil, Shloma Melech, c'est la raison pour laquelle le roi Salomon, a comparé Beshir Hashirim, dans Shir Hashirim, Ichud Zel, Ichud Ratat Dekala. Le roi Salomon a écrit Shir Hashirim, le Cantique des Cantiques. Et dans le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est bizarre, a priori. D'ailleurs, c'est un livre qu'à un moment, il a voulu être caché par les sages, parce que les sages estimaient que les gens ne l'appréciaient pas à sa juste valeur. Mais à la fin, les sages ont révélé la conclusion qu'il ne fallait pas le cacher. Il y a d'autres choses qu'ils ont cachées, mais ça, ils n'ont pas caché. Pourquoi c'est un livre qui est bizarre, a priori, évidemment? Parce que c'est un livre, si tu le lis de prime abord, sans avoir les commentaires, comme le commentaire de Rashi et le commentaire de la Gemara, etc., qui sont éparpillés un peu partout, tu as l'impression que c'est un roman.
Ouais,
c'est un roman, une histoire d'amour.
Exactement.
Entre un homme et une femme. Un homme et une femme, avec toutes les vicissitudes que peut connaître la relation entre un homme et une femme. Des fois ça va mieux, des fois ça va moins bien. Et il y a la passion, et il y a des fois la haine qui s'installe. Parce que quand il y a une forte passion, on peut avoir une forte haine qui s'installe, qui est réciproque et qui est même proportionnelle. C'est-à-dire plus la passion est forte, plus la haine peut être forte, etc. Et on a une relation qui s'installe, avec des hauts, des bas. Enfin, il décrit une relation d'amour. Shir Hashirim, ça se chante bien, mais quand vous lisez la traduction, c'est une histoire d'amour. Seulement, ce que Rashi explique dans son introduction au Shir Hashirim, Rashi explique que le Shir Hashirim, en fait, c'est l'histoire de la relation entre Dieu et Israël. Qui est l'homme? C'est Dieu. Qui est la femme? C'est Israël. Alors on pourrait se poser la question. Pourquoi on compare Dieu à l'homme et Israël à la femme? Est-ce que ça aurait été plus logique de comparer Dieu au père et Israël aux enfants? Le père et le fils, et on s'arrête là.
T'as donné la réponse.
Il y a une phrase après.
Non mais sérieusement. Sérieusement. Pourquoi, c'est vrai? Pourquoi, pourquoi je devrais me comparer à une femme par rapport à Dieu? Pourquoi? Pourquoi je me comparais à Isha? Ça, c'est un concept qui a été innové par Shlomo Amelar, pas le roi Salomon. Juste le roi Salomon, quand on voulait imaginer Dieu, on avait deux façons d'imaginer Dieu. On pouvait imaginer Dieu soit comme un roi, et nous, on est les serviteurs des sujets, soit comme un père, et nous, on est ses enfants. Quand vous lisez la Torah, le Chumash, il y a ces deux notions. Il y a la notion de Ben, et il y a la notion de Eved. Dieu, il dit, vous êtes mes enfants, et Dieu, il dit, vous êtes mes serviteurs. Donc, c'est la notion de, je le vois comme un roi, et je le vois comme un père. Mais Shlomo Amelar, le roi Salomon, a innové, il a dit que Dieu, on peut le voir aussi comme un mari. Pourquoi je le vois comme un mari? Quel rapport avec le mari? Dilad Mourazaken, le chidouche qu'il y a dans la relation entre un mari et une femme, c'est que l'attachement qu'il y a entre un mari et une femme est un attachement qui est beaucoup plus profond que l'attachement qu'il y a entre un enfant et ses parents, et entre un sujet et son roi. Beaucoup plus fort. Alors c'est vrai que, d'un autre côté, il y a un défaut dans l'attachement d'un mari et d'une femme. Quel est le défaut? L'inconvénient. L'inconvénient, c'est que d'une femme, on peut divorcer. Merci. D'un père, on ne peut pas divorcer. D'un roi, on ne peut pas divorcer non plus. Le roi, c'est ton roi. Je ne peux pas dire que tu n'es plus mon roi. Ça n'existe pas.
Je quitte le pays.
Non, mais tu ne peux pas quitter le pays. Le roi ne te laisse pas. On n'est pas en démocratie. Hein. Quand on est chez un roi, on n'est pas en démocratie. Le roi, il dit, c'est moi le roi, tu fais ce que je te demande, sinon on te coupe la tête. Hein, c'est comme ça, les rois. Donc un roi, tu ne peux pas le quitter. Un père, encore moins. Tu ne peux pas quitter ton père. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, t'arrêtes d'être mon père, t'es plus mon père. Cours toujours. Hey, t'es plus mon père, je suis ton père. Je fais peut-être pas mon travail, je fais pas mon rôle, tu m'aimes pas, tu me détestes, t'as la haine, mais je suis ton père. Par contre, une femme, on peut arrêter d'être épousée avec quelqu'un. Mais d'un autre côté, donc c'est vrai que ça c'est l'inconvénient qu'il y a dans la relation qui est entre l'homme et la femme, c'est que c'est une relation qui peut s'arrêter. Mais d'un autre côté, la passion, la relation qu'il y a entre un homme et une femme, est une passion qui dépasse de très 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 loin la relation qu'il pourrait avoir entre un parent et des enfants. Et c'est pour ça que le roi Salomon, qui est un grand poète, on a parlé de poète tout à l'heure, il a dit, on ne peut pas limiter la relation avec Akadosh Baruch Hu à une relation de crainte, comme un roi, et une relation d'amour, mais l'amour limité comme l'amour d'un père envers un fils. Il dit non. L'amour qu'on cherche ici, c'est un amour qui est beaucoup plus fort. C'est l'amour d'un homme et d'une femme. L'amour d'un homme et d'une femme qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le ciel est la limite, il n'y a pas de limite. C'est ce qu'il dit ici. Mais la reine, c'est pour cela, Imshil Shlomo Amelech Alav Shalom, c'est la raison pour laquelle le roi Salomon, d'accord, donc de mémoire bénie, a comparé dans son livre Shir HaShirim, Yichudze, cette union entre Israël et Dieu, les Yichud Ratan Vekala, à l'union d'un Ratan et d'une Kala, d'un mari et d'une femme, puisque c'est l'union qui est la plus forte. L'union la plus forte qu'on connaît sur Terre, c'est l'union entre un homme et une femme.
Il y a une forme de fiancé et de Kala.
Oui, parce que.
Ils ne sont pas encore mariés là, attention.
Bien sûr. Mais c'est là qu'il y a une fusion, ça veut dire qu'il y a une...
Non, c'est là où c'est le plus fort.
Bien sûr. Après...
Ouais. C'est pour ça que je voulais...
Bien sûr.
Non, mais les mots sont importants. Il ne parle pas de mari et femme, là, encore. Hein.
Écoutez, une fois quelqu'un qui a posé la question au rabbi, il a dit, c'est écrit dans la Gemara que la femme est comparée à une reine, le mari est comparé à un roi, la première année après mariage. C'est écrit dans un autre endroit qu'ils sont comparés roi et reine, premier mois après le mariage. C'est écrit dans un autre endroit qu'ils sont comparés roi et reine, les 7 jours du mariage. Et c'est écrit dans un autre endroit qu'ils sont comparés roi et reine au moment du mariage. Alors, il a posé la question au rabbi, il a dit comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Est-ce que je suis considéré comme un roi et une reine? Bon, le jour du mariage, les 7 jours, le mois, l'année, la vie, comment ça fonctionne? Alors rabbi lui a répondu comme ça. Il a dit, tant que tu considéreras ta femme comme une reine, tu seras un roi. Ça peut durer un jour.
Il a tout verrouillé.
Ça peut durer 7 ans, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 7 jours, ça peut durer un mois. Ça dépend de toi.
Non, c'est ce que tu donnes, tu reçois.
Exactement.
Ça dépend des deux, pas uniquement que...
Bon, c'est sûr que ça dépend des deux. Quand il y a un problème entre un homme et une femme, pratiquement jamais, c'est presque impossible que les torts sont que d'un côté. Ça n'existe pas. Il y a des fois 50, il y a des fois 40, 60. Des fois, ça arrive. C'est rare, en réalité. Voilà, la majorité des litiges que j'ai un peu gérés, c'est en général 50-50. 55-45. C'est-à-dire, si tu essayes d'estimer, tu vois qui. Tout le monde a tort. Hein. Tout le monde a tort. Même quand il y a une faute grave de la part d'un des deux, c'est parce qu'il y a eu un tort de l'autre côté. Il y a eu quelque chose de l'autre côté. Il y a rien qui vient tout ça. Alors. Bon, mais ça, c'est un autre débat.
Oui, exactement.
Donc, Velachen,
on en parlera une autre fois. Hein.
C'est une autre histoire.
Velachen, imshil.
Voilà.
Velachen, imshil, donc, ichudzi le chatan ve kala. Pourquoi? Parce que le chatan et la kala, lorsqu'ils vont s'unir, regardez les termes qu'il va dire ici. Bitveka. On parle d'un attachement. Hasheka, une passion. Vachafetza, un désir. Bechibouk, venishouk, étreinte et baiser, etc. Donc, ça, c'est dans le sens charnel. Ça veut dire qu'il y a une passion, etc., qui s'installe jusqu'à ce qu'on arrive au maximum, jusqu'à qu'on arrive au top, qu'on arrive au moment le plus fort à la relation qui est entre un homme et une femme. Ben, dites-vous.
On peut comparer ça un peu au moment où on a reçu la Torah, là.
Ben, dites-vous là, que. Alors, ça, je vais vous dire ce que le Zohar dit. Mais le Zohar dit que la même façon de la relation entre un homme et une femme, il y a un moment qui s'appelle, voilà, il y a un moment qui va s'appeler l'orgasme. Et ben, de la même façon, d'accord, pour rester. Mais c'est sérieux ce que dit. Le Zohar dit ça, il dit qu'un tzaddik, lorsqu'il fait une mitzvah, il arrive à sentir, j'ai pas envie de dire ce mot, mais il arrive à sentir une fusion avec Dieu, un plaisir intense, comme un homme ressentirait avec une femme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que, on parle pas ici d'un sujet qui accomplit la volonté d'un roi. On parle pas ici d'un fils qui veut faire plaisir à son père. On parle ici d'une femme qui aime son mari. D'une femme qui aime son mari. Et pourquoi c'est dans ce sens? Pourquoi c'est nous on est la femme et Dieu c'est le mari? D'abord parce qu'il faut toujours un qui donne, l'autre qui reçoit. D'accord? Le Dieu, c'est celui qui donne, nous, on est ceux qui reçoivent. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, il y a bien émetteur, récepteur. Émetteur, c'est l'homme, récepteur, c'est la femme. Physiquement, c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi dans l'âme, qu'il y a un émetteur, un récepteur. Un qui sait émettre, l'autre qui sait recevoir. Après, ça va dans les deux sens, mais ça va dans les deux sens. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la raison pour laquelle on est comparé à un homme et une femme, que Dieu est comparé à l'homme et nous, on est comparé à la femme, c'est parce que dans la fusion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, on peut atteindre un niveau d'amour et de passion extraordinaire. Voilà pourquoi je te ramène à parler de ça. Maintenant, on va comprendre pourquoi on dit que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot. C'est quoi? Quelle est la racine du mot Kodesh? Tout à l'heure, j'ai dit que Kiddushim, ça veut dire le mariage. D'accord. Mais Kiddushim, c'est-à-dire le mariage, donc l'union. Mais quelle est la racine exacte du mot Kiddushim? La racine exacte du mot Kiddushim, c'est Kodesh. Kodesh, en hébreu, on traduit ça par saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint?
Oui.
Quelle est la définition de saint? Chazak. La définition de saint, saint en hébreu, ça veut dire séparé.
Séparé.
Séparé. Ah, c'est particulier parce que je comprends pas. On parle de fusion et tu me parles de séparation. Alors comment c'est possible? Ça veut dire que si je traduis littéralement, ça me donne non pas que Dieu m'a sanctifié et donc c'est lié à moi par ses mitzvot, mais ça me donne que Dieu nous a séparés par ses mitzvot.
Non, c'est pas tout ce monde.
Ah, on va voir. Vézé, chez Omri, ma chère, qui déchèle au mitzvotav. Page 329. Chez là, nous, les ma'alat kodesh ha'elyon, que Dieu nous a élevés, les madrigat kodesh ha'elyon, au niveau de la sainteté suprême, chez Ig, du château shalakadosh baruch ou birvodo batmo, qui est la sainteté de Dieu en personne, ou gdusha, la chan avdala. Gdusha en hébreu, ça veut dire séparation. Mashiachadosh Baruch Hu Muvdal Meolamot. Le fait que Dieu est séparé des mondes, ça veut dire qu'en vérité, on comprend maintenant le terme Kodesh. Dieu à la base est séparé de tout. Il dépasse tout. Il est séparé du Gan Eden, du Olam Haba, des anges. Il y a plus fort de nous. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il te prend dans sa séparation, comme a dit Michael. Dans sa séparation, il te prend avec lui. Tous les anges regardent, ah, Akara, que se passe-t-il ici? Ça veut dire pour eux, ils disent, mais c'est quoi ce délire? Ils nous, on est là en train de nous brûler pour Hachem. Et ici, il y a un monsieur qui vient, il prend une peau de cuir, il la met autour de sa lanière. En plus, il dit que ça lui prend la tête, il lui fait avec beaucoup de nonchalance. Il lui prend 3 minutes, et Dieu lui dit, viens, je t'embrasse. Je te montre.
Chaque fois que tu fais une mitzvah.
Chaque fois que je fais une mitzvah, c'est ce qui se passe.
Chaque fois que tu fais une mitzvah, tu enlèves les voiles pour aller retrouver, c'est ça?
C'est le grand amour. Ma neshama, elle sent le grand amour. La passion. La passion, le désir. Le baiser.
La condition, quoi?
D'être comme un homme et une femme.
Non, ce qu'on te dit, c'est que quand je fais une mitzvah, je suis comme ça. Seulement la question, c'est est-ce que je me rends compte de ce qui se passe? Est-ce que je me rends compte de ce qui se passe? C'est la seule question. Dieu, il est en train de t'embrasser. Tu es en train d'embrasser Dieu. Et la question, c'est est-ce que tu dors? Est-ce que tu te rends compte en train d'embrasser? Tu vois, les gens, ils dorment, ils se rendent pas compte ce qu'ils font. Ils dorment, ils ne se sont pas rendus compte.
Il dort. C'est une action mécanique ou alors cette chose, elle se fait mécaniquement quand tu dis et quand tu fais la mitzvah ou alors elle se fait que si tu y penses
non,
que tu
as la caméra. Non, mécanique, c'est automatique. C'est automatique.
Bah, il le fait,
c'est énorme.
Il le fait mécaniquement parce que tous les jours, quand on fait mois dernier, il nous renvoie à
notre exactement. Kedusha, ça veut dire séparation.
Le type qui est routinier et qui met sa, ses lanières et qui fait 3-5 secondes chaque fois, voilà.
C'est fini.
Il est rentré dedans.
Bingo. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, Kodesh en hébreu, ça veut dire séparé. Comme le Shabbat. Shabbat, Kodesh. Pourquoi le Shabbat est appelé Kodesh? Parce que le Shabbat est séparé de la semaine. C'est pas compliqué, c'est simple. Le Shabbat est en dehors du temps. Dites-vous que pourquoi on dit Asher Kideshanu ba mitzvotav? Alors, littéralement, ça veut dire que Dieu nous a mariés par ses mitzvot. De la même façon que je peux me marier avec une femme. De la même façon, Dieu, par ses mitzvot, il me marie. Il fusionne avec moi. Mais c'est plus que ça. Dieu, il me sépare. Dieu, il me sépare par les mitzvot. Ça veut dire, en d'autres termes, chaque fois que je fais une mitzvah, c'est comme si qu'à ce moment-là, Dieu, il me prend dans sa chambre. Il dit, voilà, je suis avec toi maintenant. C'est énorme, ça. Et là, tu comprends bien que Dieu, il n'avait pas besoin de toi. Il n'avait vraiment pas besoin de toi. Il est venu. Pourquoi il est venu, alors?
C'est même pas une tova.
Une tova, c'est un service que tu rends à quelqu'un. C'est un amour. Un amour que tu ne peux même pas expliquer. Qu'est-ce qu'il a? C'est comme tu dis, il aime. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Elle est pas belle, elle est pas intelligente, elle est moche, elle a rien, elle a pas d'argent, elle a rien. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il nous a trouvé à Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Il avait des anges qui sont beaucoup plus beaux que nous, beaucoup plus riches que nous, beaucoup plus tout ce que tu veux.
Ce qu'il nous a trouvé, hein, c'est que les autres, ils n'ont pas voulu.
C'est les anges?
Non, pas les anges.
Mais je parle des anges. Si Dieu veut que les anges aient sa volonté, il y a des anges qui accomplissent sa volonté mieux que qui que ce soit. Bien sûr.
Mais à cause de nous, ils sont pas, ou pas du tout.
Non, ils ont été créés par Dieu aussi.
Ils font pas les mitzvot,
Mais parce qu'on leur a pas demandé. Si on leur avait demandé, qui dit qu'ils ont pas réussi? Pas du tout. Nous aussi, on nous a forcés. Si Dieu leur avait demandé, ils auraient fait mieux que nous. Ils ont pas dit de Sarah. Ils auraient fait mieux que nous.
C'est plus facile. Ce sont des robots, c'est normal.
Mais je comprends. Mais comprenez, monsieur Benitak, qu'on n'a rien à apporter à Dieu. Ça veut dire que je rends pas un service à Dieu. C'est un plaisir que Dieu a. On peut même pas expliquer ce que ça veut dire. Et donc, on comprend ça. La notion de Kadosh. À Kadosh Baruch Hu, il nous a élevés. Quand on fait une mitzvah, à Kadosh Baruch Hu, il nous élève comme un homme qui irait chercher une femme, une clocharde, et qui la prend et se marie avec elle. Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'il a trouvé? Là, c'est encore plus fort, là. Parce que si je prends l'exemple, au lieu de parler d'un roi qui est parti chercher un clochard, là, imaginez, c'est à vie, là. D'accord? C'est bon, je pousse un petit peu peut-être, mais là, imaginez un homme qui est parti chercher une clocharde. Maintenant, l'homme, grandes études, grande classe, etc., il a tout pour lui. Sa mère dit alors, qui tu nous as ramené? Qui tu nous as ramené à la maison? Mazal Tov, mon fils, Mazal Tov, qu'est-ce que tu as ramené?
Une belle âme.
Ramène une clocharde. C'est quoi cette histoire? Une clocharde, il ramène. Elle sent mauvais, elle a rien pour elle. Dis, mais qu'est-ce que tu as ramené, mon fils? C'est quoi ça? Tu mérites mieux que ça. Tiens, je l'aime. Se faire.
Une belle âme.
Elle n'est même pas une belle âme.
Ah. Ça, je suis pas sûr.
Là, c'est ce que je dis. Il n'y a rien.
Moi, je pense que
ne cherchez pas. Il n'y a rien.
C'est pour ça qu'il était.
Il n'y a rien du tout.
Sinon, s'il n'y avait même pas d'âme.
Il dit, c'est comme ça. Je l'aime. Pose pas de questions. Je l'aime. Oui. Cherche pas à expliquer l'amour.
Le coup de foudre.
Donc là, c'est un coup de foudre. Ouais, donc là, on peut comprendre pourquoi Shlomo HaMelech, il a écrit ce poème d'un magnifique qui est le symbole de la relation entre Israël et Kadosh Baruch Hu. Mais on peut comprendre aussi pourquoi les sages ont voulu le cacher. Parce que celui qui lit ça sans l'introduction que je viens de vous faire, il croit qu'il y a une histoire d'amour. Il dit, ouais, le roi Salomon, c'est un beau poète, il est bien écrit, c'est joli, c'est sympathique. Il avait passé à côté de la plaque. Il dit, t'as rien compris, papa. Tu crois que le roi Salomon, il est là pour te donner de l'imagination? Il est là pour te parler de Dieu. Il est là pour te parler de la relation avec Kadosh Baruch Hu. Et pour te dire que pour comprendre la relation avec Kadosh Baruch Hu, faut comprendre la relation que tu as avec une femme. Et c'est comme ça que tu comprends quelle relation Dieu a avec toi.
Bon, en même temps, ils avaient quand même le palais, ils avaient le sanctuaire, ils avaient tout ça devant eux. Hein.
Non, mais quand on est en Égypte, on n'avait rien.
Quelque chose. Hein.
Mais attendez. D'abord, ça ne change pas.
On a Kodesh.
Mais deux secondes. Il faut voir le début et la fin. Le début, c'est quand on est en Égypte. En Égypte, il n'y avait rien. On n'avait rien, elle est venue le chercher. Deux secondes. Pas seulement ça. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas toutes les mitzvot, mais on a quand même des mitzvot. On a un tiers des mitzvot qu'on peut accomplir.
Non, mais il y a raison.
J'entends très bien.
Ils l'ont vu. Ceux qui étaient en Égypte, ils l'ont vu.
Mais c'est pas parce que je le vois pas qu'il continue pas à m'enlacer.
C'est plus compliqué, d'accord avec toi, mais okay. C'est plus compliqué.
Là, c'est l'amour aveugle. Là, c'est.
On a un peu discuté.
Voilà. Non, si vous voulez, à l'époque du Bétamigdash, il y avait la lumière allumée. À l'époque du Bétamigdash, tu vois le beau gosse, Dieu, il t'a enlacé, tu le vois.
Non, il y avait un problème.
Là, la lumière est éteinte, il est là, il t'attrape, mais tu sais pas qui tu touches.
Quand
il
montait,
t'as eu un blanc.
Il voyait jamais le milieu. Il descendait pour aller pour exposer les machins tous les jours.
Chèque en blanc.
Monsieur Acos, Monsieur Acos. Exactement. Ça les a pas empêchés de faire des fautes. Michel, si le temple a été détruit, c'est que on s'habitue à tout.
On a besoin.
On s'habitue à tout. C'est malheureux à dire, mais on s'habitue à tout. Oui, mais nous on dit. Vous imaginez si Dieu l'avait envoyé aujourd'hui, ne serait-ce qu'une des plaies qu'il a envoyées en Égypte sur le monde. Mais c'est pas ça. Le monde entier aurait fait tchouva. Hein? Le monde entier aurait fait tchouva. Ah, dis-moi.
Quoi?
Dis-moi.
Quoi?
Imaginez si aujourd'hui, il y avait la voix de Dieu qui retentissait dans le monde entier en simultané, retransmise sur toutes les chaînes du monde. D'accord? Toutes les chaînes du monde, Facebook, WhatsApp, tout, d'accord faire. Je suis l'éternel, ton Dieu, en toutes les langues. Imaginez comment ça aurait rendu fou tout le monde.
Il faut dire, c'est un coup du Mossad. Hein
ouais, c'est un coup du Mossad. c'est quoi ce délire? Ça aurait, les gens, ça les aurait bluffé.
C'est un fake.
Pas possible.
C'est un fake.
Ouais, c'est un fake news. Vous imaginez? Eh ben, dis-toi qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la relation qu'il a avec chacun de nous. Alors on va avancer un petit peu parce que c'est magnifique comment le Mozaken explique.
Par exemple, si demain matin on se met là, on est combien? On est 16 personnes. On dit demain, on met tous les
téléphones. Oui, mais on les met déjà.
En même temps.
Non. Regardez, Monsieur Acos, la force de ce chapitre, c'est que le Mozaken n'est pas en train de dire « fais des nouvelles choses ». Il n'est pas en train de dire « fais une mitzvah que tu n'as pas fait ». Il ne te dit pas ça. Il te dit « réalise simplement ce que tu fais déjà voilà. ». Ce qui se passe dans ce que tu fais déjà. Réalise que tu es un clochard et que Dieu c'est un grand roi. Mais tu fais déjà sa volonté. Tu mets déjà les téphilis.
C'est pas assez.
Non, je n'ai pas dit que c'est pas ce que j'ai dit. Réalise ce qui se passe lorsque tu fais une mitzvah.
Analyse.
Et tu vas comprendre tout de suite que ce n'est pas toi qui rends service à Dieu, c'est lui qui te rend service. Et automatiquement tu dis « mais pourquoi et qu'est-ce qu'il a trouvé en moi ?» Et quelle est la réponse que tu vas trouver? La seule réponse, la seule et unique réponse que tu vas trouver, s'il est venu me chercher, c'est parce qu'il m'aime. C'est un chesed, parce qu'il m'aime. C'est la suite, évidemment.
Dans la poubelle.
Et Reftov.
Hein?
Tu étais là au début. Ah, mais
j'étais là cette dernière.
Alors, oui, mais on a repris, on a développé. Donc. Admor Hazaken n'a pas dit l'idée en deux lignes, il a dit l'idée en un chapitre entier, donc il faut développer.
On doit faire un résumé, c'est compliqué.
Donc, Dusha, Veoprinatsov, Kolamin, Maché, Eno, Yachol, Klevesh, Ba'en. Je suis à la page 329, en bas, la page. Qui a l'idé, Yichud, Ve, Annefesh, Kolam, Tsavaruchu, Arei, Ve, Malat, Madrega, Dusha, Tsavaruchu, Mamash. Regardez, c'est les mots puissants qu'il dit ici. Lorsque l'âme est unie avec la lumière du Ensof, la lumière de l'infini, elle devient elle-même Ensof. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a une union et il y a une fusion. Lorsqu'il y a une union, je dis bon, il y a Dieu, il y a moi. Je reste ce que je suis, il reste ce qu'il est. On s'unit. Comme on a uni un verre d'eau avec un verre. On a uni de l'eau, pardon, avec un verre. Bon, c'est une union. Mais c'est pas une union qu'on parle ici. On parle d'une fusion. On prend le prigate, on l'a mélangé avec de l'eau, il y a une fusion. Tu prends un sachet de thé, tu prends le thé, tu la mets là. Il y a une fusion.
Avec du whisky, il y a une fusion.
Si tu prends maintenant le si j'ai pris un sachet de thé, j'ai mis dans le thé. J'ai du thé devant moi. Est-ce que maintenant je suis capable de décomposer, de dire voilà, ça c'est la molécule du thé et ça c'est la molécule de l'eau. Tu peux le faire. On peut le faire avec les outils qu'il faut. Mais c'est une fusion. C'est une fusion. Ça veut dire que c'est une molécule, dans les molécules, tout est mélangé. C'est-à-dire que même si je prends au fond du verre, c'est mélangé. C'est là, c'est mélangé. Alors dites-vous, c'est la même façon. On te dit que puisque maintenant, quand tu fais une mitzvah, c'est pas seulement que tu t'unis avec Dieu. Tu fusionnes avec Dieu. Comme on l'a dit pour les Kiddushim. Tu te colles avec ta femme, tu deviens une seule chair. Collé physiquement. Ils se collent physiquement et ils deviennent une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Une seule personne. Et ben, de la même façon, là on parle d'une fusion avec Hachem. Lorsque mon âme fait une mitzvah, je m'unis pas seulement avec Dieu. Un ange, lorsqu'il accomplit l'ordre de Dieu, il s'unit avec Dieu. Moi, je m'unis pas avec Dieu, je fusionne avec Dieu. Donc, étant donné que je fusionne avec l'infini, je deviens moi-même infini. La mitzvah apporte la lumière de l'infini dans mon âme. Et ça, en mettant une peau de cuir sur moi pendant 2 minutes top chrono. Quand tu vois ça, tu le fais en courant. Tu dis, mais attends, c'est rien ce qu'il me demande. C'est-à-dire que les gens, ils auraient fait la queue pour demander à Dieu d'avoir une seconde de téphiline. Une seconde. Donnez-nous un peu cette substance. Elle est bonne, cette substance. Des années entières, ils auraient fait la queue. Et nous, on est là, on peut le faire quand on veut, tous les jours. Et t'es là en train de râler. Qu'est-ce que tu râles?
Et nous jalouse, alors.
D'accord? Mais bien sûr qu'il nous jalouse. Bah. Lorsque Dieu a donné la Torah, les anges ont dit, mais, Maenosh qui disquire nous. Dans Tehilim, c'est écrit. Ils ont dit, mais qui est l'homme pour que tu le mentionnes? Ta Torah. Parce que les anges, ils savaient, depuis la création du monde, ils savaient que Dieu, il avait un secret. Dieu, il avait un secret dans ce trésor. Tout le monde savait. Tout le monde savait. Les anges savaient. Et tout le monde attendait de voir qu'est-ce que Dieu va faire avec ce secret. Et Dieu, il sort ce secret en l'an 2448, il prend ce secret qu'est la Torah et il donne aux anges. Il donne, pardon, aux hommes. Les anges se plaignent, ils disent, mais quoi? Ils disent, mais Hachem, ce trésor que tu as, tu le prends, tu le donnes à des êtres humains qui vont même pas être capables de l'apprécier. Je comprends leur argument. T'as un outil en or, tu le donnes à des clochards. Je vais
donner la confiture au clochard. Parce que nous, on est à l'image de l'homme, à l'image de Dieu.
Oui.
Mais eux, ils sont à l'image de quoi?
Ils sont à l'image de Dieu aussi. Ben, mais ils sont quoi alors? C'est les anges! C'est les anges, les malachim! Mais Dieu, il dit non. Dieu, il dit, ben, on est mieux parce que Dieu a décidé qu'on est mieux.
Même si, quand tu parles de fusion,
c'est pas les têtes.
C'est une fusion?
Non, pas les têtes. Une fusion, c'est deux éléments qui sont à la base. C'est pareil, qui sont pas la même composition chimique.
Oui.
Et les deux, quand il y a une fusion, il y a une transformation forcément des deux.
Oui.
Qui va donner un troisième élément.
Exactement.
Là, on le croit, c'est pas ça. Je sais pas si c'est pas ça.
Oui.
C'est-à-dire que Dieu, il bouge pas. Nous, on est une partie de l'étincelle de Dieu à travers.
Oui, on peut appeler ça une absorption, si tu préfères.
Absorption plus que fusion.
Oui, c'est vrai.
C'est... Non,
Oui, j'entends ce que tu dis. Toi, tu es dans le monde des finances. Donc...
Absorption.
Monde des finances, quand tu mets Sanofi, Aventis, il y a Sanofi et Aventis.
Voilà.
Et fusion,
c'est un troisième élément.
Et nouvelle marque, Grèce. Ouais. Disparu.
On a pris Sanofi, on a pris Aventis, on a créé Sanofi et Aventis.
On sort un autre.
C'est vrai, t'as raison. Là, c'est une sérieuse, c'est juste très juste ce que tu dis.
Il y a une expression qui s'appelle relation fusionnelle.
Ah oui, relation fusionnelle,
c'est nouveau.
Ah oui. Alors, regardez dans les mots, on va terminer avec ça, encore deux lignes. Je tourne la page 330.
Le mélange fait que ça en fait qu'une seule entité.
Mais achar.
Mais techniquement, tu as raison.
Je vais terminer juste deux lignes. Mais achar, chez mitia redet ou mitkalelet boit barer. Dès lors qu'on accomplit la volonté de Dieu, je m'unis avec lui, elle est absorbée en lui, tu vois, ils ont employé ici le terme absorbé. Ve'ayu la chadi mamash, et Dieu et moi, on devient comme un. Ah ouais. Un.
Donc fusion.
Ça, c'est quand je fais une mitzvah. Mais Zé, chez Katouv, avec ça, on va comprendre un pasouk qui est écrit dans la paracha Kedoshim. Deux psoukim.
Donc voilà.
Un verset dans la paracha Kedoshim, 2 secondes, et un verset dans le schéma qu'on va lire tout à l'heure, quand on va faire le krat schéma. Regardez le premier verset. Premier verset dans la paracha Kedoshim. Vi'item li Kedoshim. Le texte dit, vous serez saint pour moi. Ki kadosh ani Hashem, car moi Hashem je suis saint. Va avdil etrem min amim liotli, et je vous ai séparé des autres peuples pour que vous soyez miens. Ce verset a l'air complètement incompréhensible. Dieu il dit, vous serez saint parce que je suis saint. Mais toi tu es saint, d'accord, mais moi je peux être comme toi. Vous serez saint parce que je suis saint. Et je vous ai séparé des autres nations. Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi ça parle? Maintenant, on a compris. Étant donné que quand on fait une mitzvah, Dieu nous donne la possibilité d'être absorbé par lui, de fusionner complètement avec lui, de devenir un avec lui. Donc Dieu, il dit, je peux te dire d'être saint parce que moi, je suis saint. Puisque quand tu fais une mitzvah, tu deviens un avec moi. Donc si je suis saint, tu es saint. Si je suis séparé de la matière, tu es séparé de la matière. Si je suis infini, tu deviens infini. Avec ça, on comprend ce pasouk. Il est encore plus fort. Regardez le passé.
On prend toutes les mitzvot d'Hachem, en fait.
Exactement.
Quand il décide de telle mitzvah,
on devient. Alors, le terme est un peu fort, mais c'est la réalité. On devient divin.
Bah, c'est ça.
On devient divin.
On a dit la Neshama qui a fui.
Avec des choses simples. Regardez tout à l'heure, là, dans 5 minutes. On va faire la mitzvah. On va faire une mitzvah de là, le Kriyat Shema du soir. on va le lire, je sais pas à quoi ils vont penser, ils vont penser ce qu'ils ont mangé chez eux, ce qu'ils vont manger, je sais pas à quoi ils vont penser. Baba, tu fusionnes avec Dieu, là. C'est une autre question. C'est une autre question.
On n'est pas au niveau. Hein? Pas au niveau. Ah bah
si, bah, alors, on va lire pas dernier pasouk. Véomer, il est écrit. Vaasitem et kol mitzvotai, viitem kedoshim lelohechem. Comme ça, vous aurez une kavana tout à l'heure. Il est écrit, vous ferez, vous accomplirez
mes commandements.
Tous mes commandements, et vous serez saints pour votre Dieu, Ani Hashem Elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Dieu? Mais il dit, vous allez accomplir toutes les mitzvot, et donc automatiquement, vous serez saints pour Dieu, c'est-à-dire que vous serez séparés pour Dieu. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. En d'autres termes, vous serez saints pour moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, il y a une fusion, vous êtes inséparables, nous sommes inséparables. Ah, c'est pour nous montrer, c'est pas quand on fait une mitzvah. Et ça, le but du chapitre de la Gemara Zaken ici, c'est de nous montrer l'amour que Dieu éprouve pour nous. Un amour extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire, t'as même pas besoin de faire un effort pour aimer Dieu. Réalise simplement à quel point Dieu il t'aime, et automatiquement tu vas dire, mais je peux pas ne pas l'aimer. Après, on peut aimer quelqu'un et avoir des questions, lui en vouloir. C'est pas un problème, ça. Mais, ne pas aimer Dieu, c'est pas possible. Après un chapitre, c'est pas possible. Et avec ça, j'ai pas fini. Alors, la semaine prochaine, encore, il va développer encore et encore et encore.
Juste une remarque, même. C'est par rapport à ce qu'on vient de faire à la fin, là. De ce paragraphe-là. Si on prend le schéma dans sa globalité.
Oui.
Tu as tout intégré dans le schéma. Parce que tu as pratiquement les 613 mitzvot qui sont intégrés dans l'analyse du schéma.
Oui.
Donc là, tu as tout. Tu as l'amour et la crainte d'Hachem dans le schéma.
En effet. Hein.
En fait, quand on fait ça, on est complètement englobé par Hachem et on est rentré dans sa chambre.
Mais le schéma, c'est une mitzvah.
Bah ouais. Mais
là, imaginez toutes les mitzvot.
Pas n'importe laquelle.
Extraordinaire.
Parce que quand tu dis Ani Hachem, etc. C'est le premier commandement.
Premier commandement. Anochi, c'est vrai.
Donc là,
c'est
veut dire qu'il nous a pris dès le départ.
Dès le départ, il nous a pris. C'est le moment du don de la Torah. Ouais. C'est là, il nous a pris dans la chambre, il nous embrasse, il nous en laisse. Donc après un chapitre comme ça, on n'a pas encore fini. On hésite beaucoup moins à en faire une.
Dire aussi, il nous a pris dès le départ parce que tous les autres n'en voulaient pas.
Parce qu'il nous dit. Mais Monsieur Benita, d'abord, le fait que tu proposes un être humain, d'accord, Monsieur Benita, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu qu'un PDG qui a des milliards et des milliards et des milliards va voir un pauvre pour lui proposer, lui donner son produit. Ça n'existe pas.
C'est qu'à Hollywood que ça marche.
Ça marche pas, ça n'existe pas, ces choses comme ça.
Son capital, jamais
dit. S'il vient me chercher, c'est qu'il a besoin de moi. Ah, pourquoi il est venu me chercher? Pourquoi il est venu chercher les êtres humains, Bichlal?
Il a vu du potentiel. Il est venu me chercher parce que toutes les personnes qu'il est allé chercher auparavant, avant moi, ils n'en ont pas
voulu. Mais si vous dites ça, c'est-à-dire que vous pensez qu'il avait besoin de quelque chose. Si tout le monde a dit non, moi j'ai dit oui. D'abord, c'est faux. Parce que s'il avait fait à tout le monde ce qu'il nous a fait à nous, s'il avait retourné à la montagne sur eux aussi, ils auraient dit oui.
Non, mais,
Oui.
Oui, mais d'abord, avant même qu'il retourne à la montagne, il a proposé la Torah aux 70 nations.
Ah oui, mais il a proposé, il leur a dit pile leur faiblesse, et il leur a pas retourné à la montagne. Oui. C'était truqué. Évidemment. Dieu voulait que nous on dise oui, qu'eux disent non. Il n'y a pas de question. Et d'abord, Dieu n'a pas besoin de personne. Dieu n'a besoin de personne. C'est ça ce qui peut rentrer dans notre tête. Moi, ce qui rentre dans ma tête dans ce chapitre 46, c'est que Dieu n'a besoin de personne ici.
Mais oui, mais excusez-moi.
Dieu, je ne lui rends pas service en faisant une mitzvah. Je lui procure un plaisir, mais je ne lui rends pas service. Il n'a pas besoin de moi.
Mais c'est
impossible de répondre. Si je pouvais répondre à cette question, j'aurais été Dieu.
Personne. Il y a des rabbins qui m'ont répondu. Enfin, des rabbins ou des chefs, parce que on retombe toujours sur la même question. Il y a quelqu'un qui est très riche, qui est milliardaire, il a tout. Il a tout. Tout ce qu'il veut, il l'a. Et ben, peut-être qu'il a un délire, il aime les oiseaux.
Il est en danger.
Il est plus en danger.
Oui, mais c'est pas, on peut pas dire que c'est par rapport à Dieu, parce que dans ce cas-là, ça laisserait entendre que Dieu a des besoins.
Il est en danger.
Et donc des manques.
T'es d'accord?
C'est qu'il
peut même pas avoir.
On peut pas dire ça.
Un nouveau truc.
Dieu a des besoins.
Non.
S'il est pas humain.
S'il a des besoins, c'est qu'il a des manques.
S'il a des manques, c'est qu'il est pas.
C'est pas possible. Donc évidemment, Dieu n'a aucun manque.
Alors pourquoi il nous a créé alors?
Parce qu'il a eu envie.
Il a voulu se faire un kiff.
Non, il a eu un désir, mais il a eu envie. J'en sais rien pourquoi il a eu envie.
Voilà, on sait pas.
Il nous a pas dit pourquoi il a eu envie.
Voilà. Non, mais qu'on soit bien d'accord, on sait pas.
Bien sûr qu'on sait pas.
Ça en sera avec ma chérie.